Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver dans un nouveau numéro de talk show après ces fêtes de Kippour que j'espère que vous avez bien passé, et nous fêterons évidemment les fêtes de Soukhot qu'on vous souhaite très bonnes aussi. Ce dimanche sur France 5 à 22h35 dans la case du siècle, il y aura un documentaire sur la France catholique face à la Shoah avec nous l'historien de ce documentaire. Bonjour Frédéric Joly.
Laurent Joly.
Laurent Joly, pour moi. Bonjour, merci d'être avec nous. L'idée de ce documentaire, au départ, c'est l'ouverture récente des dernières archives au Vatican.
Alors non, heureusement, le film a été entamé bien avant. Mais c'est vrai que quand on a su qu'il y avait cette ouverture des archives de la Seconde Guerre mondiale du pape Pie XII, donc au début de l'année 2020, on s'est dit qu'on pouvait pas rater ça, et donc on a continué à travailler sur ce film qu'on avait déjà commencé il y a plus de 2 ans.
Alors, on va essayer avec vous de voir l'histoire de ce film. Il y a une réalisatrice avec vous, Marie-Christine Gambard, qui a réalisé ce rendez-vous avec vous. Si on prend le départ de l'histoire des catholiques et des juifs dans les années 30, est-ce qu'on peut dire par base de départ que l'Église catholique avait un antisémitisme latent dans les années 30, 36, 37 ?
Alors l'Église a été depuis le vote de la loi de 1905, le modernisme, l'Église, l'épiscopat français des années 20-30 a été assez renouvelé. Donc on a plutôt des évêques qu'on considérerait comme ralliés à la République, et donc vous n'entendrez pas de propos antisémites dans la bouche d'évêques, d'archevêques, de cardinaux. Vous en avez même qui, à la fin des années 30, vont dénoncer l'antisémitisme, comme Mgr Raymond ou Mgr Saliège, qu'on va retrouver, c'est pas un hasard, pendant la Deuxième Guerre mondiale, soit pour dénoncer l'antisémitisme, soit pour aider les Juifs, la République aussi, malgré le Front populaire. On est plutôt dans une forme d'entente, enfin de bonnes relations, d'apaisement des relations. Et l'effondrement de 1940 va finalement faire revenir l'épiscopat à des positions qui seront celles du début du XXe siècle. On va avoir l'impression d'avoir des évêques qui se rappellent un peu leur jeunesse, les lois laïques, etc. Et donc l'arrivée au pouvoir de Pétain en 1940 va vraiment être considérée comme une forme de divine surprise par l'épiscopat français, qui va avoir là l'occasion de revenir sur 40 ans, 50 ans de mesures laïques.
Alors vous, ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est que finalement, on le verra tout au long du film, les catholiques en général, en tout cas vers la fin de la guerre, ont été plutôt prêts à sauver des juifs. Mais ce que j'ai appris déjà, c'est que lors des premières lois anti-juives contre Pétain, on n'a pas beaucoup entendu l'Église catholique.
Oui, alors l'Église de France s'est vraiment ralliée au nouveau régime, à Pétain, de manière assez inédite. C'est-à-dire qu'il est quand même assez rare d'entendre des évêques, et notamment le primat des Gaules, qui est le chef de l'Église de France. Le primat des Gaules, c'est l'archevêque de Lyon. À l'époque, c'était le cardinal Gerlier. Il a prononcé cette phrase absolument incroyable: l'Église, la France, c'est Pétain. Pétain, c'est la France. Donc il y a eu un engagement politique très fort de la part de la hiérarchie catholique.
C'est
et cet engagement politique s'est accompagné d'un soutien au premier statut des Juifs et un soutien en amont, puisque l'Église a été consultée avant le premier statut des Juifs. C'est quand même une loi raciale, c'était pas évident de faire passer ça. Et l'Église a, avec des réserves, mais a quand même donné son accord pour le principe d'une loi raciale.
Alors vous dites quelque chose d'intéressant, c'est que finalement l'Église a joué un rôle politique avant la promulgation des lois.
Comment ?
Vous dites que l'Église a joué politiquement avec Pétain, entre guillemets.
Oui, l'Église s'est engagée politiquement derrière Pétain, et cet engagement politique a eu comme conséquence le fait que l'Église a soutenu le principe du statut des Juifs, n'a pas vraiment protesté lorsqu'il y a eu un second statut des Juifs en 1941, qui était quand même assez scandaleux aux yeux d'un catholique, puisque le commissaire général aux questions juives, Xavier Vallat, avait fait une définition qui, notamment, faisait impliquer le rôle du baptême, et si vous n'étiez pas baptisé avant le 25 juin 1940 et que vous aviez deux grands-parents juifs, vous deveniez de facto juif, ce qui était quand même une intrusion de la loi dans le caractère sacré du baptême. L'Église là n'a pas vraiment protesté non plus. L'Église n'a pas non plus été très active pour dénoncer les conditions d'internement des juifs étrangers en zone libre qui étaient absolument ignobles et qui entraînaient des désastres humanitaires terribles. Et donc c'est vraiment qu'à partir de 1942 que l'Église va bouger.
Alors Laurent Joly, qu'est-ce qui a fait justement la bascule? Qu'est-ce qui a changé pour que l'Église catholique en général aide les juifs?
Ce qui a changé, c'est que là, on a touché à ce qui est au cœur de l'Évangile, j'allais dire, c'est-à-dire que le respect de la vie humaine, le fait d'arrêter des femmes, des enfants, de les déporter dans un endroit mystérieux, mais dont on devine que la mort sera au bout, c'était pas concevable, c'était pas acceptable pour la hiérarchie catholique. Et là, ils sont intervenus publiquement par des protestations publiques. Monseigneur Saliège à Toulouse a été le premier à le faire, mais important, il a été suivi par le chef de l'Église de France, il a été suivi par le cardinal Gernier, donc lui aussi a protesté publiquement, oui. Il est intervenu auprès de Pétain, auprès de Laval, donc il y a eu une mobilisation en zone libre de la hiérarchie catholique.
Alors on parle beaucoup en ce moment, surtout avec l'ouverture des archives, du rôle du pape Pie XII pendant la Shoah. Qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à la force qu'avait le pape à l'époque ?
Alors, ce que on a eu grâce à l'historienne Nina Valbousquet, qui était sur place à Rome, on a eu accès à ces archives, qui sont des archives absolument extraordinaires. Et le débat sur Pie XII, il ne va pas être bouleversé, mais on sait que Pie XII n'a pas fait de condamnation publique forte de l'extermination des Juifs et qu'il a laissé les épiscopats nationaux agir. Et là, on a vraiment confirmation de ça, avec en plus cet élément d'appréciation qu'on peut juger comment il a réagi. Et donc en fait, il a réagi, Pie XII, de manière très neutre. Il a pris acte du fait qu'en France, des évêques protestaient, mais il a pas vraiment encouragé, il n'a pas découragé, il s'est tenu dans cette ligne qui lui a été reprochée, qui lui est toujours reprochée d'ailleurs, de neutralité, de je n'interviens pas, je ne dis rien, parce que si jamais je parle de manière trop forte, je risque des représailles pour le peuple catholique.
Dimanche 4 octobre, 22h35, sur France 5, dans la case du siècle, la France catholique face à la Shoah. Alors, il y a ce point-là, évidemment, du changement de l'Église catholique, il y a les réactions de différents évêques, mais dans le film, vous le montrez bien, il y a une sorte, on va dire, de guéguerre dans l'Église catholique française. Il y en a qui sont pour, d'autres pour qui sont contre. Il y a eu beaucoup, je veux dire, d'attentisme. Pourquoi cet attentisme? Pourquoi ce chaud-froid?
D'abord, il y avait ce qu'on appellerait une élite éclairée. Donc il y avait des catholiques de base, des militants, qui étaient déjà souvent actifs dans le rapprochement judéo-chrétien avant la guerre, et qui ont voulu faire bouger les lignes. Mais effectivement, ils étaient au départ très minoritaires, très isolés, parce que l'Église était prisonnière de ce soutien à Pétain qu'elle a proclamé dès 1940. Puis il y avait de toute façon, Serge Larsen le dit bien dans le film, il y avait une forme de d'inertie. La France était tétanisée par la défaite. Le peuple catholique, comme les Français, à l'époque 90%, 95% des Français sont catholiques. Il y a un taux de participants à la messe chaque semaine qui est très élevé. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Donc quand on parle de l'opinion publique, on parle de l'opinion catholique. La France est catholique à l'époque, et donc les Français étaient sonnés par cette défaite, étaient sonnés par les conditions de vie qui étaient très dures, donc c'est vrai qu'il y a eu du temps pour que on réagisse.
Alors Pétain lui aussi a joué, on va dire entre guillemets, avec l'Église catholique un peu beaucoup en allant aux messes, en parlant souvent devant les ecclésiastiques. Est-ce que Pétain était un vrai catholique fervent ou c'était lui aussi la politique ?
C'est une révélation assez amusante d'une de nos apparitions dans le film. Je l'ignorais avant de commencer ce film. En fait, Pétain était un mauvais catholique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'allait pas souvent à la messe, et surtout, il vivait en concubinage. Bon, c'est d'ailleurs un homme qui n'avait pas créé de famille, et il vivait en concubinage. Et l'archevêque de Paris, le cardinal Suard, en 41-42, lui a dit, écoutez, maréchal, il faudrait que vous viviez un peu comme un bon catholique. Et donc, il s'est marié à 85 ans avec sa compagne. Il était avec cette femme depuis une vingtaine d'années. Donc, il s'est marié. Donc, on peut pas dire que Pétain était un grand catholique. En revanche, il a beaucoup utilisé l'Église catholique. Il l'a caressé dans le sens du poil. Il a joué de sa popularité auprès du peuple catholique pour faire avancer sa politique, qui était une politique de redressement national, de moralisation, qui parlait de fait aux catholiques.
Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Dès que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Il ne devait jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps, survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Ils s'appelaient Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonné qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors, la lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100.
Laurent Joly, un des historiens du documentaire qui sera diffusé dimanche à 22h35 sur France 5, La France catholique face à la Shoah. On va citer quand même la personne qui a réalisé le documentaire avec vous. Il s'agit de Marie-Christine Gambard. Laurent Joly, on a parlé dans la première émission, la première partie de cette interview, des réactions des catholiques. Qu'est-ce qui s'est passé après les réactions? Il y a une action des catholiques envers les juifs?
Oui, alors ce qu'on observe, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une forme pas d'arrangement, mais qu'il y a vraiment deux phases à l'égard du gouvernement de Vichy. C'est-à-dire que à l'été 42 jusque mi-septembre 1942, vous avez eu des protestations publiques, et là on a l'impression que l'Église s'est dit, là on ne dit plus rien, on ne critique plus le gouvernement publiquement, en revanche, on passe vraiment à l'étape d'un sauvetage qui, dans certains diocèses, remonte jusqu'à l'évêque. C'est-à-dire que l'évêque dit qu'il faut protéger les gens, donc tout le monde dans le diocèse, dans un département, on va ouvrir les monastères, on va accueillir des enfants dans des pensions catholiques, etc., etc. Donc on est passé à une phase du sauvetage qui a été silencieuse. Donc c'est vrai que l'Église n'a plus critiqué le gouvernement, il y a comme une sorte de deal, et c'est vrai que Vichy n'est pas allé regarder de près ce qui se passait dans les couvents. Qui a permis, jusqu'à ce que les Allemands envahissent la zone libre, ce qui a permis de sauver beaucoup de gens, et notamment beaucoup, beaucoup d'enfants. Les enfants étaient vraiment la cible privilégiée du sauvetage des chrétiens.
C'est dans cette optique-là qu'on peut, disons, faire à ce que un portrait moins noir de l'Église catholique pendant la Shoah, c'est d'avoir sauvé des enfants.
Oui, vous savez, c'était déjà la thèse de Serge Klarsfeld dès 1983 dans Vichy-Auschwitz. Serge Klarsfeld explique bien ce mécanisme qui s'est passé en France. En France, 75 000 juifs ont été déportés. Ils ont été déportés parce que Vichy a accepté à l'été 1942 de mettre au service des Allemands leur police, leur gendarmerie. Donc, des moyens policiers que les Allemands n'avaient pas, Vichy les ont apportés. Parce qu'à ce moment-là, Vichy pensait que l'Allemagne allait gagner la guerre, parce qu'il voulait se débarrasser des juifs apatrides qui étaient en zone libre, et puis parce qu'il y avait aussi cet enjeu de souveraineté. On voulait que la police française soit le plus souverain possible, la plus souveraine possible en zone occupée. Donc c'est tous ces mécanismes-là qui expliquent pourquoi Vichy a rempli d'ailleurs les objectifs que les Allemands leur avaient donnés. 40 000 juifs ont été livrés en 1942. C'est absolument énorme. Mais les trois quarts ont survécu, des juifs en France. Et Serge Klarsfeld l'expliquait dès 1983 par le rôle absolument fondamental de l'intervention, les protestations et les interventions des évêques français en 1942, août-septembre 1942. C'est ça qui a fait que Vichy a été obligé, parce que le cardinal Gerlier a expliqué, si vous continuez à arrêter massivement en zone libre, le peuple catholique ne sera pas d'accord. Donc Vichy a été obligé de reculer à un moment donné, et c'est ça qui a permis en grande partie le sauvetage de milliers de personnes. Et puis l'Église a également patronné, alors c'est pas partout, hein, évidemment, mais dans un certain nombre de diocèses, de départements, a vraiment aidé au sauvetage des Juifs. Et on donne l'exemple du diocèse de Nice, où l'évêque de Nice a accueilli au sein même de sa maison épiscopale un réseau de sauvetage d'un couple de Juifs, Moussa Abadi et Odette Rosenstock, qui ont eu des couvertures de la part de l'épiscopat. Moussa Abadi était officiellement enseignant de l'enseignement libre catholique. Odette Rosenstock, sous un faux nom, était assistante sociale pour l'évêché. Et ils ont pu, comme ça, sauver 500 enfants juifs.
Alors, Laurent, je dis aussi une information que j'ai appris finalement, on a l'impression que l'Église catholique a un peu réagi à partir du moment où le peuple catholique en lui-même a réagi. Est-ce que c'était comme ça ou c'était le contraire ?
Oui, il y a une dialectique, c'est évident qu'il y a une dialectique, mais ça ne veut pas dire que l'Église réagit pour autant, parce qu'à Paris, au moment de la rafle du Veldiv, on sait par les rapports des renseignements généraux que l'opinion publique a été très émue de ce qui s'est passé, dès le premier jour de la rafle. Et pour autant, le cardinal Suard, archevêque de Paris, n'a pas protesté. Vous voyez, ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est aussi une volonté, j'allais dire presque politique, et aussi des possibilités de le faire. C'est vrai qu'en zone libre, l'Église était plus libre, avait moins peur, en zone occupée, l'Église était tétanisée par la présence allemande. Donc même si les Français étaient choqués par ce qui se passait, l'Église n'a pas réagi en zone occupée, mais elle a réagi en zone libre, où là, il y a eu une rencontre. C'est pour ça que la protestation de Monseigneur Saliège, qui était l'archevêque de Toulouse, a eu un impact absolument énorme. C'est-à-dire que c'est devenu ces fameux mots très connus, les juifs sont des hommes, les juifs sont des femmes, tout n'est pas permis contre eux. Donc des paroles très simples qui rappellent juste le béaba de la morale chrétienne, le respect de la vie humaine. Et ben ces mots-là ont eu un impact énorme dans l'opinion publique. C'est d'ailleurs le transformé en tract, c'est le tract le plus diffusé de l'histoire de la résistance, parce que ces mots rencontraient les sentiments profonds des gens. C'est-à-dire que les gens, à l'époque, beaucoup de gens avaient des préjugés antisémites, c'est une évidence, mais là, on touchait à quelque chose qui n'était pas possible. On peut ne pas aimer les juifs, trouver qu'il y a trop de juifs, etc., être un peu antisémite, mais là, on arrête des femmes, on arrête des enfants, on les envoie du jour au lendemain vers des camps, on sait qu'ils vont partir vers l'Est, en Allemagne, on sait qu'ils risquent de mourir, donc ça, c'était pas possible. Si vous voulez, c'est une sorte de décence commune, de morale ordinaire, qui a joué, dont l'Église a su se faire le porte-parole.
Alors, enfin, il y a quand même une question qui subsiste, Laurent Joly, c'est qu'est-ce qu'a pu avoir peur l'Église catholique vis-à-vis des Allemands ? Qu'est-ce qu'ils risquaient éventuellement ?
On s'en occupait. Quand les Allemands sont venus, les Allemands, je parle d'officiers nazis qui sont arrivés, des gens de la Gestapo, qui s'occupent de la sécurité, qui s'occupent de police, ils avaient...
Ils rentraient pas dans les églises en général, si ?
Comment ?
Ils ne rentraient pas dans les églises en général.
Ils sont anti-chrétiens, mais le juif est l'ennemi numéro un. Donc, enjeu sécuritaire fondamental dans une zone occupée, c'est le juif. Puis après, vous avez les Anglais, tout ce qui est lié à l'espionnage anglais, etc. Et puis vous avez les catholiques. Les catholiques étaient donc les Allemands ont fait des perquisitions. Ont fait des perquisitions dès qu'ils sont arrivés en juin-juillet 1940. Ils ont fait des perquisitions dans les évêchés, et notamment à Paris. Et donc imaginez le cardinal Suard qui s'est retrouvé arrêté pendant 2 jours, tétanisé, l'épiscopat qui a été fouillé par la police allemande, donc il a eu en fait très peur. Et ça, cette peur-là, elle l'a accompagné tout le long de l'occupation. Alors après, les Allemands, ils ont quand même compris qu'il fallait faire attention, il fallait ménager un petit peu l'opinion catholique, et ils ont été moins sévères, mais ils ont quand même continué. Il y avait un espion allemand qui venait constamment voir le cardinal Suard. Donc si vous voulez, l'Église en zone occupée était placée dans une situation qui n'était pas la même qu'en zone libre. Mais il y a aussi des questions de personnalité. C'est-à-dire que ce cardinal Suard, archevêque de Paris, en plus, c'était un homme qui n'était pas très courageux. C'était un homme très timoré, très peureux, très, très doux, mais qui n'était pas du tout fait pour gérer une telle situation. Donc c'est ça qui fait qu'en zone occupée, l'Église n'a pas protesté contre les rafles, la rafle du Valdiv notamment, ce qui est quand même absolument incroyable, parce que le cardinal Suard a hésité à faire une protestation publique, il a même écrit un texte, et puis finalement il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce qu'il a eu peur des Allemands, mais il a aussi eu peur de Vichy. René Bousquet, le chef de la police de Vichy, est allé voir le cardinal Suard le jour de la rafle du Valdiv, le 16 juillet 1942, à 16h, parce qu'il savait déjà que l'opinion serait choquée, il avait déjà eu des retours qui venaient du terrain, et donc il est allé voir le cardinal Suard, et il l'a menacé, très gentiment, mais il l'a menacé quand même en lui disant « Si vous protestez, c'est contre nous que vous faites quelque chose qui sera contre le gouvernement, et vous risquez d'avoir des problèmes. » Donc voilà, en zone occupée, l'Église n'a pas protesté. Même si après ils ont fait une lettre, qu'ils ont envoyé à Pétain, mais ça n'avait pas le poids d'une protestation publique.
Laurent Joly, vous qui êtes historien et qui travaillez souvent sur ces sujets-là, comment vous qualifiez l'attitude générale de l'Église catholique vis-à-vis de la Shoah ?
Si on regarde à l'échelle européenne, il est évident, et aujourd'hui le procès est toujours fait, entre guillemets, le procès en termes moral, à Pidouze de ne pas avoir su trouver les mots pour qualifier cette entreprise inédite qui consistait à exterminer un peuple entier, le peuple juif, à l'échelle de l'Europe. Pidouze est resté prisonnier d'une position qui était la sienne au début de la guerre, une position de neutralité, je n'interviens pas, je ne porte pas de jugement trop sévère sur la nature des crimes nazis, mais le problème c'est que la nature de ces crimes nazis a évolué, on est passé au génocide, et là-dessus il n'a pas su trouver les mots, et alors il a fait en décembre 1942 une déclaration à Noël, où il a condamné l'ensemble des crimes qui avaient lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, mais ça a englobé les bombardements, les morts civiles. Il a parlé d'extermination pour des raisons de race et de religion, mais vous voyez, c'est assez discret, et c'était noyé dans un discours qui était d'ailleurs très long, et donc c'est une allusion, il a fait une allusion à l'extermination des Juifs, mais c'était très
une allusion,
peu,
oui.
Par rapport à ce qu'on aurait pu attendre du pape.
D'ailleurs, il n'a pas cité les Juifs, d'ailleurs.
Comment ?
Il n'a pas cité les Juifs nommément.
Il n'a pas cité les Juifs nommément. Et la vérité, qu'on doit aujourd'hui bien comprendre, c'est qu'à l'époque, et c'est plus le cas aujourd'hui, à l'époque, la question juive est secondaire pour l'Église catholique. Ça n'est plus aujourd'hui, à cause de la Shoah, où là, il a fallu se rattraper sur cette absence, et d'où des réparations ultérieures. L'Église de France a fait, en 1997, a fait une déclaration de repentance, qui englobait également les lacunes de Rome. Donc,
cette repentance a été nécessaire, selon vous ?
Elle était nécessaire pour les relations qui sont devenues très importantes pour l'Église catholique, pour les relations avec la communauté juive. Ce n'était pas possible d'avoir des relations saines entre le culte catholique et le culte juif sans passer par cette déclaration de repentance, qui était d'ailleurs historiquement assez juste, assez précise, puisque l'Église s'est excusée essentiellement de ne pas avoir réagi en 1941, d'avoir soutenu le statut des Juifs. Et alors certes, en 1942, ils ont agi, ils ont fait ce qu'il fallait, tardivement certes, mais ils l'ont fait. Ça a eu un poids sur la politique de Vichy. Vichy a été obligé de reculer à un moment donné. Je précise, on oublie souvent, que Vichy était prêt, en septembre 1942, à livrer des Juifs français à la suite des Juifs apatrides qui avaient été livrés durant l'été. Juifs français, c'était des Juifs naturalisés, mais ils étaient français malgré tout. Et ces Juifs naturalisés, Vichy était prêt à les livrer. Et Vichy a dû renoncer à les livrer en septembre 1942 parce que Laval a expliqué aux Allemands, là j'ai mon opinion publique contre moi, j'ai l'Église contre moi, or le cardinal Gerlier a beaucoup d'influence, je ne peux pas me permettre de me mettre à dos l'opinion catholique. Et les Allemands ont accepté cette considération politique, pragmatique.
La France catholique face à la Shoah, ce sera dimanche 4 octobre à 20h35 sur France 5, un documentaire réalisé par notre invité Laurent Joly et par Marie-Christine Gambard. Merci beaucoup Laurent Joly.
C'est moi qui vous remercie.
Et à très très bientôt. Merci à vous.
Au revoir.
Allô ?
Oui, allô ?
Merci beaucoup, c'était très intéressant.
Merci
comme
beaucoup,
le film
pour
d'ailleurs.
Question. Et puis moi je suis alsacien, donc je suis ravi.
Ah d'accord, en tout cas, vous êtes d'où ?
J'ai mes études à Strasbourg, mes parents sont là-bas. Donc voilà, j'étais.
Vous êtes de Strasbourg même ? Allô ?
Oui.
Vous êtes de Strasbourg même ?
Oui, de Strasbourg même.
Eh bien, ils peuvent écouter l'interview mercredi à 13h15.
Merci beaucoup.
Voilà, merci à vous, au revoir.
Au revoir.